C'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons de Sade avec l'un des grands spécialistes de son œuvre, Michel Delon. Un autre grand sadien, c'était bien sûr Jean-Jacques Pauvert. On l'écoute ici en archive.
Jean-Jacques Pauvert pose d'ailleurs de façon volontairement naïve une question qui est la question que posent tous les gens qui ont voulu réprimer Sade. Oui. C'est Sade est-il sadique ? Alors, quelle est votre réponse à cette question?
Ah, moi, je réponds tout à fait oui. Ça, je veux dire que je m'inscris complètement en faux, par exemple, contre l'opinion d'un membre de sa famille qui, il y a 20 ans, n'est-ce pas, a dit, moi, la campagne que je mène, c'est pour séparer le nom de Sade du sadisme. Mais pas du tout. D'abord, s'il n'était pas sadique, qu'est-ce qu'il serait, finalement? Où serait, justement, cette grandeur dont on parle toujours? Il est complètement sadique. Je pense que Sade, et c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre, était quelqu'un d'extrêmement dangereux, socialement. Je n'affirme pas qu'il ait tué quelqu'un. Ce que j'affirme, c'est qu'il était très capable de le faire. Toujours dans ce mouvement, si vous laissez l'enfant à qui on donne un petit chat ou un petit oiseau, et il le prend dans sa main, il serre, tiens, ça crie.
Jean-Jacques Pauvert qui était interrogé par Raphaël Sorin. Alors, sadique, Sade, c'est évidemment la question qui vient à l'esprit tout de suite.
Pauvert a le mérite de mettre les points sur les i. Je crois que, bon, il prend position contre d'autres, contre l'idée des surréalistes, d'Annie Lebrun, qui disait que Sade, c'est l'amour fou. Je crois que la catégorie de sadisme, c'est une catégorie des médecins du 19e siècle, et c'est un mot qui a été inventé à partir sans doute du nom de famille de Sade, hein, mais qui correspond pas à ce que Sade a vécu et ce que Sade, surtout, a écrit. Hein? Il est cruel, il est, encore une fois, irresponsable dans cette morgue de grand féodal dont on a parlé tout à l'heure.
Mais il le justifie en disant que c'est la nature aussi qui est comme ça. Voilà. Et la nature, elle est plus souvent tordue que droite. Il y a quelque chose autour de l'idée de torsion, que vous relevez d'ailleurs, qui est très présente dans les textes.
Hein? Les philosophes des Lumières réfléchissent beaucoup à la notion de monstre. Hein, ils considèrent que est un monstre celui qui, statistiquement, n'est pas le modèle dominant. Hein, alors lui, Sade, il applique ça et il dit les moralistes ont parlé de beaucoup de choses, mais ils n'ont pas réfléchi à ce plaisir qu'on a à s'affirmer contre autrui et même à tirer un plaisir de la souffrance d'autrui. Mais les médecins exactement contemporains s'interrogent aussi, y a-t-il une différence absolue entre le plaisir et la souffrance pour l'individu? Hein? Et c'est le moment d'ailleurs aussi où pour la première fois on va essayer, la médecine va essayer de prendre en charge la souffrance et de l'atténuer.
Alors j'ai dit qu'on continuerait de parler de l'amour, mais c'est vrai que j'aimerais aussi que dans cette émission, on profite du fait que vous avez écrit l'introduction à la Pléiade Sade pour faire un petit peu un point quand même sur l'œuvre elle-même, et puis raconter, comme vous le dites dans cette introduction, qu'il a pratiqué un peu tous les genres. Je pense que c'est aussi important de le rappeler, pas toujours finalement de ramener Sade, comme on vient de le faire d'ailleurs, j'en prends une part de responsabilité, au sadisme. Alors, tous les genres, ça veut dire quoi,
D'abord, en tant que jeune fille, fils de famille, il fait du théâtre. Hein, c'est-à-dire, tous les châteaux qu'il fréquente ont une scène où la famille joue. Alors, soit des pièces connues, soit des pièces qu'on écrit.
Oui. Et puis à Lacoste, il va
il aménage,
organiser un théâtre où il y a même deux scènes pour jouer des représentations de pièces différentes. Là, il y a quelque chose de très moderne. Il y a même, je crois, un endroit pour se restaurer. Enfin, on dirait presque une maison de la culture.
Là, Je crois qu'il ne comprendrait pas ce que c'est que la maison de la culture.
Forcément. Hein.
Mais il fait aménager, en effet, des espaces théâtraux. Il embauche, hein, il se souciait pas beaucoup de ses fins de mois, lui. Une troupe de théâtre et il invite toute la noblesse locale à ses représentations, d'où la nécessité de les restaurer. Et tout au long de sa vie, il va continuer à écrire du théâtre et à essayer d'en faire jouer. Hein, et c'est en particulier ce qu'il fait à Charenton, hein, avec un certain succès, et où il rencontre une idée nouvelle de la médecine aliéniste, la fonction curative éventuelle du théâtre.
Donc il y a le théâtre, mais il y a aussi les dialogues philosophiques.
Voilà, qui est le grand genre du XVIIIe siècle. Hein. Diderot, Voltaire écrivent des dialogues. Et lui, hein, il a le premier texte qu'on connaisse de lui, c'est l'entretien d'un prêtre et d'un moribond. Hein, où le prêtre vient dire au moribond, bon, maintenant, il faut absolument vous repentir. Et le moribond lui répond, mais si je me repens de quelque chose, c'est pas avoir encore fait assez de choses dans ma vie. Hein, j'ai vécu selon mon plaisir et je veux mourir de la même manière. Mmh. Et puis ensuite, la philosophie dans le boudoir. Hein, comme son nom l'indique, on avait philosophé partout, mais jusqu'à présent, on ne philosophait pas dans un boudoir. Et c'est toute la conception qu'il a d'une nouvelle pratique de la philosophie.
Mais alors c'est peut-être quand même dans les romans qu'il est le plus habile finalement à déployer son univers.
Il trouve une liberté totale et il va avoir le point de départ de sa grande fresque romanesque. C'est donc deux sœurs, Justine et Juliette, qui seraient l'exact opposé. Hein, Justine, totalement fidèle au normatage religieux et social. Donc elle passe sa vie à dire « je dois être vertueuse, conserver ma pudeur et ma virginité », alors qu'elle est sans cesse livrée à toutes les horreurs du monde, régulièrement volée, violée, violentée, etc. Mais elle ne veut pas entendre cette expérience. Elle est une espèce de martyre de la chasteté. Et à l'opposé, on a Juliette qui décide de vivre tous ses désirs et d'être vicieuse dans une société où le vice est dominant, qui donc va faire une grande carrière à travers l'Europe de courtisane. Oui. Et on a là comme ça un roman qui devient épique.
Mais alors, est-ce que c'est un roman ou est-ce que c'est une suite de séquences pornographiques? Comment faire la différence, finalement, Michel Delon? Qu'est-ce qui fait roman avec l'histoire?
Qu'est-ce qui fait roman? Que la vie de Juliette est un voyage. Alors, en effet, elle est courtisane. Donc, à chaque fois qu'elle arrive dans un lieu, elle s'installe et elle décrit un peu ce que viennent faire ses clients. Mais en même temps, quand, par exemple, elle est en Italie, eh bien, les scènes vont se dérouler dans les ruines de la Grande Grèce, en Sicile, vont se dérouler sur les flancs du Vésuve. Donc, là, on a un lien entre ce qui se passe et le décor, entre ce qui se fait et ce qui se dit, hein, puisque tous ces personnages théorisent leur pratique en faisant de la philosophie. Mmh. Si ce n'était que de la pornographie, hein, imaginez, vous allez dans un pipe show et vous avez en face de vous quelqu'un qui vous lit du Kant, alors qui est nu, mais qui se masturbe, mais qui lit du Kant. Mmh. Je crois que la plupart des clients
partiraient, vous croyez?
Je pose la question.
Et on va lancer un sondage à nos auditeurs qui peuvent nous contacter sur Twitter pour répondre à cette épineuse question.
Avec Sade. Hein, on a ces décalages avec, par exemple, une scène totalement délirante d'une orgie qui se passe à Saint-Pierre de Rome.
D'ailleurs, dans un baldaquin très célèbre, voilà, avec des montants qui sont tordus.
Voilà,
on
des
revient
colonnes torses,
à l'idée
baroque,
de la torsion.
Et à l'esthétique qui est une esthétique baroque de la contre-réforme, hein, chez Sade. Donc, je crois que n'importe quelle personne qui voudrait lire un roman pornographique ne pourrait pas aller bien loin chez, dans l'œuvre de Sade. Ça lui tomberait des mains.
Les défenses multipliées de celle-ci m'embarrassèrent beaucoup. La force ou la contrainte ne s'arrangeait pas à ma délicatesse. Cependant, je devais rendre un compte exact. Je me trouvais donc obligé de faire demander au roi ce qu'il prétendait que je fisse. Il m'envoya deux femmes de sa garde, munies de l'ordre de contenir la jeune fille et de l'empêcher de se soustraire aux opérations de mon devoir. Elle fut saisie et je poursuivis mes recherches. Elles devinrent très embarrassantes. Pas assez bonne anatomiste pour décider en dernier ressort sur une chose qui me parut douteuse, je me contentai d'établir sur celle-ci dans mon rapport que je lui supposais absolument tout ce qu'il fallait pour plaire à son maître, et que si les choses n'étaient pas tout à fait dans l'entier qu'il leur désirait, il s'en fallait de si peu que l'illusion lui serait encore permise. Quant à la quatrième, c'était une vieille femme, et je la réformai, ainsi que la première. Mais le roi ne s'empara pas au moins de toutes les quatre. Il était si enthousiasmé des femmes blanches qu'il n'en voulut soustraire aucune. Mon opération faite, les femmes entrèrent au sérail et je me retirai.
Ça, c'était un extrait du roman de Sade, Aline et Valcourt. C'était ce moment où le narrateur doit vérifier pour le compte d'un sultan la virginité de femmes qui entrent dans son sérail. C'est pas un de ses romans les plus connus, Aline et Valcourt. C'est peut-être un des romans que vous aimez quand même le plus, hein, Michel Delon.
Oui, c'est un roman qu'il a publié sous son nom, qu'il a revendiqué et qui voulait être un grand roman d'amour et d'aventure philosophique comme La Nouvelle Héloïse ou comme Cleveland de l'abbé Prévost ou comme Jacques le Fataliste de Diderot, c'est-à-dire un roman qui mêle un itinéraire géographique, hein, une découverte du monde et une découverte de soi. Et là, le personnage de... la femme, et puis, puisque dans cette situation étrange, hein, c'est un mari et une femme qui sont face à face, mais il ne reconnaît pas sa femme.
Oui, il la cherche partout, mais il ne la reconnaît pas.
Il ne voit pas qu'elle est là, et elle va sortir des pattes de l'horrible tyran noir au milieu d'une Afrique totalement noire. Mais vous avez remarqué le mot qu'utilise Saint-Ville, c'est l'illusion. Mm-hmm. Hein? C'est-à-dire que, de même que l'imagination est essentielle dans la vie amoureuse, de même l'illusion. Et donc, tout ce que nous avons dit sur la violence, elle peut être de l'ordre de l'imaginaire et de l'illusion, et elle n'est pas contradictoire avec des relations respectueuses entre les êtres.
Alors, il y a...
Je vous rassure, hein.
Ça y est, je suis rassuré. Il y a la question chez Sade de l'explicite. C'est un petit peu aussi ce que vous dites là. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qu'on laisse à l'imaginaire, qu'est-ce qu'on montre. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que Sade dit les choses? Parce qu'on a l'impression qu'il dit tout. Et en même temps, ce que vous nous expliquez, c'est qu'en réalité, il suggère davantage.
Oui. Dans les 120 journées de Sodome, qui est le texte le pire, hein, où il semble qu'on montre les pires choses qu'on puisse imaginer qu'un être fait à un autre, eh bien, même dans ce château des 120 journées, il y a des cabinets pour s'isoler et faire des choses dont on ne peut pas parler. Et là, on est face à nos limites, même...
C'est
qu'est-ce qu'on peut imaginer le pire
du récit d'horreur, en fait.
Voilà.
De dire que c'est affreux sans montrer ce qu'on fait.
Voilà.
Et c'est l'imaginaire.
Et comme on est dans une langue classique, donc vous avez tout le jeu des métaphores, dans les textes que l'on dit tellement répétitif et pornographique. Et en même temps, vous allez avoir tout d'un coup un imparfait du subjonctif ou une métaphore qui fait que les organes ne seront plus nommés comme tels, mais qu'il y a ce travail d'équivalence auquel on est forcé de se livrer pour comprendre à peu près de quoi il s'agit.
Vous diriez que le travail sur la langue, le travail sur le style est premier chez lui ?
Je ne sais pas s'il est premier. En tout cas, il est là. Et on peut avoir, je conserve un vrai plaisir de lecture en écoutant les extraits que j'ai quand
même. Même les 120 journées, vous lisez avec plaisir ce livre ?
Bon, c'est un texte difficile, oui. Là, c'est un texte limite, mais dans les premières pages, oui, il y a des formules drôles. Mais il nous entraîne pour nous forcer à être face à nos propres, ce que nous acceptons. Plus ou moins, parce que c'est 120 jours et chaque jour c'est un peu pire. Donc les premiers jours on se dit bah oui ça on accepte, et puis on est confronté à l'horreur et c'est sûr que c'est le pire texte de Sade.
Alors, vous dites que la poétique du romancier chez Sade, elle se trouve perpétuellement entre la crainte de trop dire et celle de ne pas dire assez. C'est ce que vous venez finalement d'expliciter là. Mais Sade a toujours raconté les mêmes obsessions. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut signaler.
Oui, mais ça, on dit ça d'à peu près tous les écrivains. Un écrivain, il écrit plus ou moins toujours le même livre. Donc, chez Sade, on a des thèmes récurrents. La solitude de l'être humain, la difficulté de construire une relation à autrui. Mais en même temps, au théâtre ou dans le roman, dans un roman qu'il signe et qu'il reconnaît, qu'il avoue, qu'il proclame, et un roman qu'il publie anonymement, sous le manteau, qu'il présente comme posthume, La philosophie dans le boudoir, ouvrage posthume, par l'auteur de Justine. Donc c'est comme si il adoptait un point de vue différent, et là, les mêmes obsessions changent de lumière et d'apparence selon ces deux points de vue opposés.
Alors parmi ces obsessions, il y a le rapport entre l'extrême beauté et la salissure. C'est ce que vous appelez, je crois, une dissonance.
Tout à l'heure, vous parliez des contorsions, les contorsions des colonnes, mais qui sont aussi les contorsions de la jouissance ou de la...
Les corps tordus, les corps contorsionnés.
Oui. Des convulsions. Et il faut se souvenir qu'on est à l'époque exacte des convulsionnaires de Mesmer, qui seraient une façon de soigner les maladies psychologiques.
Mais donc il y a cette idée que la beauté appelle forcément la torture, par exemple.
Et que le désir, souvent on a des personnages, ils ont à choisir. Alors il y a une femme sublimement belle. Puis à côté, il y a une vieille qui se lave pas, et ils font bander pour la vieille qui se lave pas. Donc, ils constatent que le désir est tordu. À l'époque, le mot qu'on emploie, que Diderot emploie, il dit il y a de la bizarrerie en amour, il faut accepter.
Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs qui auraient envie de découvrir Sade, qui ne le connaîtrait que par réputation, par oui-dire, par quel texte faudrait-il commencer finalement ? Pour ne pas avoir peur et en même temps, pour ne pas passer non plus à côté complètement.
Je trouve La philosophie dans le boudoir est un texte qui a une espèce d'allégresse.
Oui, c'est un des textes les plus gais.
Au sens ancien et moderne du terme, ou militant du terme. C'est un texte où la pire violence est évoquée, puisqu'il y a un pamphlet politique au milieu, révolutionnaire, mais en même temps, à part on est un peu méchant avec une maman qui vient récupérer sa fille, mais en gros, on est entre adultes ou presque adultes consentants.
Oui. Enfin, il s'agit quand même d'une éducation d'une jeune fille, mais pas trop, trop jeune. Bah, écoutez, merci beaucoup, Michel Delon. On va tout de suite se jeter sur La philosophie dans le boudoir. Et puis je renvoie nos auditeurs sur l'un de vos livres, hein, il y en a beaucoup, citons Sade, un athée en amour, dont on a parlé aujourd'hui, livre que vous avez dirigé pour les éditions Albin Michel, et puis on a parlé aussi de votre édition des œuvres de Sade dans la collection de la Pléiade.